I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, Super Laser Punchy et toutes sortes d'accents différents pour dire qu'on parle de super-héros, de Marvel, du MCU et aussi peut-être, tiens, à la fin, on parlera d'un ou deux autres petits trucs comme, tu veux dire un mot sur le Snyder Cut de Justice League? Vraiment un mot à la fin ou tu veux pas du tout en parler?
Allez, on peut.
Et on parlera aussi d'une série animée à ne pas rater sur Amazon Prime Vidéo, que je vous décrirai un tout petit peu à la fin. Mais pour le moment, on parle de Falcon and Winter Soldier épisode 2. Je suis Patrick Béja et mon Winter Soldier, juste à côté, c'est évidemment Johan. Comment ça va, Johan? T'es en forme?
Ça va. Je suis en forme. Je vis dans la peur constante qu'on me coupe Internet. voilà, j'ai des petits soucis. J'ai un technicien qui vient me le remettre et un autre qui vient me l'enlever. J'en suis à la quatrième occurrence. Donc,
t'as découvert un truc, oui, espérons que ça se passe pas pendant l'enregistrement, mais t'as découvert une pratique absolument infâme qui est visiblement assez répandue, qui est que dans certaines villes où il n'y a pas assez d'infrastructures, comme les techniciens sont payés si le client, qui sont des sous-traitants de sous-traitants, comme tu le disais, sont payés seulement si le client a Internet à la fin, et ben, comme ils n'ont pas assez de place dans leur boîte fibre, ils débranchent quelqu'un d'autre pour brancher le client qui n'a plus Internet. Et ça t'est arrivé à plusieurs reprises. C'est con que ça soit tombé sur toi à chaque fois quand même.
Bah là maintenant, une fois que je suis identifié, je pense qu'il rebranche le mec au même endroit que moi. Donc il y a une autre personne qui est comme moi, quelque part dans mon quartier, qui est désespérée.
Voilà. Bon, espérons que ça tienne. Espérons que ça tienne au moins pour l'enregistrement de l'épisode, on verra.
Oui, au moins.
Et donc, deuxième épisode de Falcon and Winter Soldier. Vous savez que dans cette série, on débriefe tous les épisodes et tous les films de Marvel. On a fait WandaVision il y a quelques semaines, quelques mois, à chaque semaine, bien sûr, chaque épisode. Et maintenant, on est en plein dans Falcon et Winter Soldier, deuxième épisode sur 6. Et du coup, bah, Johan, qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième épisode ?
J'ai beaucoup aimé encore. Je trouve que je sais pas trop comment le décrire, mais je trouve vraiment que je sais pas si c'est le rythme. Je pense que c'est le rythme qui me fait ça, mais je trouve ça très très solide, quoi. Je vois vraiment pas les 40 minutes passer. C'est assez dense. Il y a pas mal de choses qui se passent. Cette fois-ci, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve qu'il était assez drôle cet épisode.
Il y avait beaucoup plus d'humour que dans le premier. On est assez proche en fait. Je pense que c'est la série et en tout cas le deuxième épisode. On est très proche d'un film Marvel et même d'un film Captain America, quoi. On est vraiment dans cette formule là.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça marche super bien. Très content de cet épisode-là.
Ouais. Moi, je l'ai trouvé sympa, vraiment. Je dirais pas que c'était un truc qui m'a complètement blowé mon mind, mais c'était sympa. Le petit reproche que je ferais, on va parler plus en détail tout à l'heure, mais le petit reproche que je ferais quand même, c'est qu'au bout du compte, on se retrouve avec tellement de personnages différents et de groupes et d'entités et de trucs introduits que ça commence à faire un petit peu brouillon, je trouve. On verra si ça se calme un peu après au moment du troisième épisode, mais c'est un tout petit peu brouillon. Mais bon, prenons, comme d'habitude, un petit peu dans l'ordre, ça va être moins long que les épisodes précédents, je pense. Mais moi, j'ai vraiment adoré la première scène où on découvre un petit peu plus du personnage du nouveau Captain America, John Walker, qui est... très humanisé dans cette première scène. J'ai trouvé que ça fonctionnait. Alors, ils ont un petit peu fait genre... Alors, sa copine, elle est noire. Son meilleur pote, il est noir. Vraiment, lui, il n'est pas raciste. Hein, il n'est pas raciste du tout. Hein, c'est pas ça. Donc, c'était un petit peu on the nose, comme on dit en anglais. Mais je l'ai trouvé, vraiment, ça l'humanisait beaucoup. Il explique, moi, je n'ai pas de super pouvoir. J'essaie juste de faire le mieux que je peux. Il y a une sincérité, même si on sent bien un petit peu de noirceur à la fin de l'épisode. Et on sent que ça risque de déraper un peu, mais on sent qu'il est sincère au moins. Et ça, j'ai vraiment apprécié avec cette première scène.
Ouais, pareil, j'ai trouvé ça très très bien qu'il, du coup, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que on découvrait ce Captain America et on partait pas du bon pied avec ce personnage, puisque du coup, ça partait d'un mensonge, d'une manipulation de Falcon, et puis c'est qui ce mec, en plus il a un flingue, tu vois, ça partait mal. Et du coup, tout de suite après, reprendre de zéro. Ok, alors, qui est ce mec ? Il a l'air ouais, effectivement sincère et il a l'air de faire vraiment du mieux qu'il peut. Ça va continuer un peu après, du coup, avec ça, où il va expliquer qu'il a sauté plusieurs fois sur des grenades. Ça m'a
fait
un peu dire. Ouais, j'ai sauté 4 fois sur les grenades. Ah, moi, j'ai sauté sur 6 fois, je suis plus gentil. C'est ça. Un petit peu comme ça, mais ouais, j'ai trouvé ça très bien. Après, du coup, je grille un petit peu la suite, mais tu te parlais de noirceur et quelque part, j'avais trouvé ça un petit peu dommage que cette noirceur arrive si vite. J'aurais aimé le croire super cool un peu plus longtemps, et surtout, j'aurais aimé que Falcon le croie aussi.
Disons qu'il se dévoile pas complètement. Hein. C'est pas que c'est juste qu'il dit un ou deux mots, genre reste pas sur mon chemin. Ça va, c'est encore compréhensible, ouais. Je trouve. C'est pas. Je me demande si on n'avait pas le background de US Agent qu'on a décrit dans l'épisode précédent de notre podcast. Je me demande si on aurait pensé que c'était, si on se doutait que ça allait déraper autant, mais peut-être qu'on le sent quand même un peu. Enfin, on va voir. Ouais. Hein. Ça se trouve, ça sera pas le cas, mais. Et je dois dire qu'à la fin de cette scène, moi, j'avais un petit peu envie de voir la suite de ses aventures à lui. Je me disais, bon, ok, Sam et Buck, c'est cool, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe avec John, quoi. Où il va aller, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Mais bon, c'était cool.
Du coup, on peut préciser qu'il a pas de super pouvoir. Par contre, il est ultra athlétique et il performe tellement que son corps a été étudié par... le MIT, etc. Donc, c'est quand même quelqu'un de très fort, mais pas du tout super soldat, pas du tout...
Disons qu'effectivement, il a pas de super pouvoir, mais il est vraiment... c'est le top de l'humanité, quoi. Parce que quand il se bat sur le camion, tu te dis, ok, c'est quand même exceptionnel. Et justement, donc, on arrive à la scène avec Bucky et Sam, que je sais pas si je peux l'appeler Bucky, du coup, parce que je suis pas Captain America, j'ai pas le droit. Mais du coup, cette scène qui est assez sympa, où on commence à avoir vraiment l'humour qui ressort et la relation buddy movie de Sam et Bucky, après une confrontation un petit peu sévère, où je trouve que Sam lui dit assez... On comprend tout à fait, on est dans la peau, je trouve, de Bucky, qu'on dit « Mais pourquoi tu l'as donné, le bouclier, machin ?» Mais en même temps, on le comprend. Et puis Sam lui dit, mais attends, c'est pas ta décision, c'est bon, tu vas pas décider pour moi, d'où tu viens, c'est moi qui ai fait ce que je pensais devoir faire, et voilà, et c'est pas à toi de me dire ce que je devais faire. C'est assez justement dit, et puis après il y a le moment où ils disent, où ça commence à s'étendre, où il dit, je pense que c'est les big three, mais c'est quoi les trois habituels ? Des aliens, des androïdes ou des magiciens ? Il dit, magicien, il n'y a pas de magicien. Et l'autre qui lui parle de Doctor Strange. Et non, mais un sorcier, c'est un magicien sans un chapeau. Donc, c'est bien un magicien. J'ai trouvé ça très, très drôle et bien trouvé.
Et du coup, là, on est au moment où Falcon s'apprête à partir un peu à la traque des Flag Smashers.
C'est ça, exactement.
Du coup, dans l'avion et tout ça va mener finalement à une confrontation assez cool, j'ai trouvé, sur une autoroute avec des camions.
Bonne scène d'action. Ouais. Après, encore de l'humour avec les deux qui fonctionne très bien encore, genre où ils se disputent un peu, ils se disputaillent. Puis après, on a une belle scène d'action qui n'est pas aussi spectaculaire que celle du premier épisode, mais qui est cool quand même, avec l'arrivée de John Walker, de Captain America, qui était inattendu pour le coup.
Ouais, c'est ça. Alors, du coup, effectivement, on sait pas trop... je sais pas trop comment c'est arrivé, mais oui, il débarque effectivement aussi au même endroit. Et puis, ils se rendent compte, en fait, effectivement, que les Flag Smashers sont des super soldats. Et du coup, il y a ouais, une confrontation assez... pas vraiment à l'avantage, en fait, des protagonistes. Je me suis demandé ouais, si Barnes, à ce moment-là, je m'étais demandé si Bucky se retenait pas dans ses coups, qui est confirmé un peu plus tard, parce qu'il rappelle plus tard chez la psy la fameuse règle numéro 2 de sa réhabilitation, qui est de ne blesser personne.
Ouais.
Et du coup, bah, c'est la rencontre hein, avec ouais, le Captain America et son acolyte Battlestar.
qui est aussi un personnage de, qui est aussi un personnage de des comics hein, d'ailleurs.
D'accord, ouais, là j'avoue que c'est Vandavision qui m'a un peu vacciné. Je cherche plus trop maintenant. Je préfère profiter des plot twists que m'offre le MCU. Mais effectivement, je sais pas si tu veux ajouter des choses sur la baston.
Non, bah la baston était bien spectaculaire. Bon. Je dirais que quand ils se rendent compte que c'est beaucoup de, enfin que eux c'est des super soldats aussi, c'est là que ça commence à être ok. Donc bon, il y a des super soldats bon. Partout. J'ai l'impression qu'ils servent vraiment de la série des séries pour introduire plein de nouveaux personnages. Et je me demande s'ils pêchent pas un peu trop par l'excès, là, quand même. Parce que on a... bah, y a des super soldats partout. On a Lamar... comment il s'appelle ? Lamar Hoskins et John Walker. Et on va avoir dans un instant le Isaiah Bradley, le super soldat ouais. noir, etc. etc. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, la scène en elle-même est cool. Elle est bien foutue. Et les interactions entre l'équipe, la team Sam Wilson et la team John Walker, je trouve, fonctionnent. C'est juste ce qu'il faut de drôle et juste ce qu'il faut de réaliste, entre guillemets, dans ce type de situation. Et j'ai bien aimé qu'ils les connectent aussitôt, finalement, parce que je craignais que ça soit un petit peu chacun dans leur coin, ou John Walker qui soit en train de faire des trucs de manière un petit peu... uniquement que ça soit uniquement un personnage, mais là, faire interagir les personnages en ayant humanisé John Walker, je trouve que ça fonctionne et ça offre des dynamiques intéressantes, ce qui est super bien dans le MCU, quoi. C'est ça qui fonctionne.
Et du coup, bah, sur cette séquence d'action, ils se font rouster et puis ils se retrouvent un peu après dans la camionnette là de.
Ouais, la Jeep, ouais.
Et c'est là, alors moi, j'ai un petit peu un problème sur cette scène-là et sur une autre scène un peu plus tard, qui est pour moi un peu récurrente dans la MCU, c'est un peu un problème de subtilité, c'est-à-dire que là, on a un peu des... ça polarise un peu beaucoup, c'est-à-dire qu'on a à la fois un Captain America qui, lui, on reste sur l'idée de qui a été introduite au début de l'épisode, où c'est quelqu'un qui fait de son mieux, qui est vraiment là pour faire le job, hein, comme il le dit, il veut résoudre le problème, il est de bonne foi, etc. Et en face, on a deux gamins qui boudent, tu sais, j'ai eu vraiment cette sensation-là, quoi. Je trouvais que c'était à la limite de la gaminerie, et je trouvais ça dommage de... Autant pour Barnes, je peux comprendre, mais pour Falcon, je trouvais que ça marchait pas très très bien.
C'est marrant, moi, ça m'a pas vraiment... Ça m'a pas marqué de cette manière. Je trouve que la trahison est tellement grande, parce que même si lui, il est là pour faire le job, ce que ça représente, c'est quand même une malhonnêteté, tu vois, par rapport à eux. Et puis, je pense encore plus que ça, une trahison de ce qu'aurait voulu Steve Rogers, tu vois. Il est le comment dire, l'incarnation de ce que... d'une trahison de l'esprit de Steve Rogers. Donc moi, ça me surprend pas qu'ils soient... S'ils s'étaient mis tout à coup, tu vois, s'ils avaient dit « Bon, ok, allez, tout est oublié, on va bosser ensemble, t'as l'air d'être un gars sympa », ça m'aurait tout autant choqué. Donc moi, personnellement, ça m'a pas vraiment dérangé, ce qui est un peu quand même une gaminerie, et tous les deux, comme ils le montrent à plusieurs reprises avec le staring contest et tout ça, ils sont complètement des gamins, ouais.
Justement, pour moi, ça, ces actes-là, c'est pas digne de Captain America, quoi. Tu vois, genre, est-ce que Steve Rogers aurait réagi comme ça, lui, tu vois,
mais ils ne sont pas Captain America.
Oui, bien sûr, mais du coup, c'est...
Ouais. Tu vois, c'est... Moi, ça me gêne pas parce qu'ils sont sérieux quand il faut. Tu vois, c'est on rigole, et puis quand il faut faire les choses sérieusement, ils sont quand même, ils y vont à fond, tu vois, donc ça ne me gêne pas tellement, ça ne m'a pas dérangé. Ok, donc on a cette scène, et puis après, ils se rendent compte donc que c'est des super soldats, on a les Flag Smashers qui sont accueillis par des gens complètement normaux. On a un petit peu l'impression de, je sais pas, à moitié Anonymous, à moitié groupe terroriste de populaire. Et ils vont voir, du coup, Sam et Bucky, Isaiah Bradley, qui, là encore, alors, on a cette scène que je vais pas vous redécrire, mais j'ai trouvé que un élément était hyper bien fait. C'est que quand il commence à parler à Isaiah, on voit uniquement son visage. Et on se dit, ah bon, bah, écoutez, c'est un vieux mec, ok, bon, c'était un super soldat, il était il y a très longtemps, et maintenant, il est quand même assez âgé, et il doit être... Enfin, c'est un vieux, quoi. Et puis, quand il s'énerve... Tu as la caméra qui le prend en plan, qui prend vraiment en plan moyen son corps, et tu te rends compte comme il est baraqué ce mec, mais c'est hyper impressionnant. Donc tu dis, wow, ok, d'accord, bon, ben, je veux bien croire que c'était un super soldat parce que. D'accord, très bien. Mais. Vas-y.
J'allais dire, tu penses qu'on le reverra, ce personnage, dans la série ?
J'en ai aucune idée. Là encore, c'est un personnage qui fait partie du MCU, qui est effectivement le, entre guillemets, le Captain America noir, le Black Captain America, qui est un soldat, un super soldat, qui a été victime d'expériences, ça fait un peu penser à... le ton fait un peu penser aux expériences... Est-ce que tu connais l'étude de syphilis de Tuskegee ? Est-ce que tu sais ce que c'est ?
Là, ça ne me dit rien.
C'est une étude qui a été menée jusqu'au début des années 70 sur des citoyens américains noirs. Alors, tenez-vous bien.
Et vous n'avez pas le droit d'être traités, c'est ça.
En fait, ils ont dit qu'ils les traitaient pour la syphilis et ils ne les traitaient pas pour étudier l'évolution de la syphilis. C'est bon, alors ça vous donne un petit peu le ton dans lequel la chose a été pensée. Et Isaiah, c'est une histoire, je ne parle pas du MCU, hein, c'est une histoire du vrai monde réel. Donc voilà, si vous êtes un peu choqué, c'est l'intention. Et Isaiah Bradley, c'est un super soldat, mais c'est un petit peu quand il dit à la fin de l'épisode, enfin à la fin de sa scène, on a fait des expériences sur moi, c'est comme ça qu'on m'a remercié d'être un héros, pendant 30 ans on m'a enfermé. Voilà, c'est un petit peu ce type de d'ambiance, et c'est là encore un commentaire sur les relations raciales aux États-Unis, ethniques aux États-Unis, dont on a un exemple dans un instant également dont on parlera.
Et même juste avant, en fait, c'est vraiment une séquence avec plusieurs notions qui vont dans ce sens-là, parce que quand ils arrivent, il y a ce gamin noir qui reconnaît Falcon et qui fait « Ah, Black Falcon
ouais. !»
et Falcon répond « Non, mais c'est juste Falcon, je ne suis pas caractérisé par ma couleur, etc. » Donc ça, c'est un premier point, et ça peut faire référence, j'imagine, au fait que justement, Isaiah, on l'appelle Black Captain America, mais c'était... Ouais. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses-là. C'est des choses qu'on voit souvent que quand on change une caractéristique. Typiquement, quand Thor, dans les comics, a été repris par Jane Foster, il y a eu aussi ces notions de non, c'est juste Thor, c'est pas female Thor ou que ce soit.
Ils ont beaucoup insisté là-dessus, c'était au milieu des années 2010, et effectivement, ils insistaient sur le fait que Jane Foster Thor, c'était pas Lady Thor ou, ou Thor Woman ou quelque chose comme ça, c'était Thor, elle c'est Thor, voilà. Et c'est des choses dont on parle depuis longtemps avec les histoires de Supergirl et c'est effectivement ce genre. Comme l'archétype, généralement, c'est un homme blanc, bah, tout ce qui est dérivé, copié, on a forcément besoin de le qualifier et ça qualifie la chose, c'est sûr. Mais j'ai bien aimé la réponse de Sam. Je trouve que c'est bien foutu, la réponse de Sam au gamin. Il lui dit, quoi, je suis Black Falcon parce que je suis noir? Bon, bah, toi, t'es quoi, t'es Black Kid alors? C'était vraiment... Je trouve que c'est bien fait parce que on disait, en parlant de ce qu'on espérait dans la série, il y a deux épisodes, et j'en parlais à l'épisode précédent, mais à la fin de WandaVision, on disait, moi, j'espérais qu'il parle de, des questions ethniques et des questions de relations ethniques et raciales aux États-Unis. Et je pensais pas que, qu'ils aillent aussi loin, mais en même temps, c'est bien traité, c'est suffisamment, comment dire, subtil et léger et profond en même temps pour que ça soit... Enfin, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Et je trouve, bon, moi, en tant que personne qui ne suis pas hyper concernée par ce genre de discrimination, je trouve que c'est bien géré. Mais...
Ouais, alors du coup, ce que j'en avais dit la semaine dernière, je le pense toujours là, c'est-à-dire que il y a des situations qui sont montrées et qui seront comprises par ceux qui sont assez, ceux qui sont soit concernés, soit assez ouverts sur le sujet, et ceux qui disent qu'il n'y a pas de souci, tu vois, typiquement, on va en parler tout de suite, mais l'arrestation de la presque arrestation de Falcon juste après, donc du coup en fait ils ressortent de chez Azaya et ils se disputent dans la rue, Barnes et Falcon, et la police arrive et tout de suite se met à braquer Sam. Falcon en disant stop, Sam, ouais c'est ça, en lui disant stop, voilà, c'est des séquences malheureusement auxquelles on est assez familière, hein, surtout si on peut avoir vu certaines vidéos de la vie réelle qui peuvent se terminer très très mal. Mais typiquement cette situation-là, quelqu'un qui est fermé sur le sujet dira qu'il voit pas le souci, quoi, que bah non, mais le flic l'arrête, moi... il a rien à dire, il doit obéir, il doit rentrer dans la voiture. Enfin, tu vois, pour moi, en fait, ce que je veux dire sur ça, c'est que la série montre des situations entre guillemets banales, c'est-à-dire c'est des choses, voilà,
qui arrivent
régulièrement, mais se positionne tellement légèrement, enfin entre guillemets, c'est tellement implicite, et la position de la série est tellement implicite sur le sujet. Qu'il y aura pas, ça va jamais provoquer ça va jamais challenger, si tu veux, ceux qui pensent qu'il y a pas de souci et ce genre de choses là en fait. Mmh. Alors c'est pas forcément une critique forte de ma part, c'est comme ça que moi je l'analyse. Je m'attendais pas du tout à ce que Disney traite le sujet du tout. Or c'est quand même présent, donc je le vois moi quand même d'un point de vue, je le vois quand même plutôt positivement pour du Disney. Et ça me convient que ça soit aussi léger parce que je reste un peu dans la peur que si ça soit traité plus profondément, que ça ne me convienne pas du tout.
Ouais. Ouais, moi je trouve que sur ce point, je trouve que cette scène en particulier est assez forte. Et je ne sais pas si c'est une différence de perception en France ou aux États-Unis ou de personnes de différentes ethnies. Mais moi, j'ai l'impression que c'est impossible d'ignorer ce qui se passe dans cette scène. Tu vois, oui, une personne qui va être... pour le coup, carrément en train de défendre l'idée... Tu vois, le Blue Lives Matter crowd, les gens qui étaient contre l'idée du Black Lives Matter, peut-être qu'eux, ils vont se dire... Ah bah... mais même eux, ils vont bien voir ce qu'essaye de faire la série, tu vois. La scène montre que les flics sont en train de harceler Sam, alors que les deux sont également dans cette situation. Je pense qu'il est difficile de la lire autrement, y compris si on n'est pas... Après, on va peut-être pas être d'accord avec cette représentation des relations des Noirs américains et de la police. Peut-être qu'on va dire « Ah non, mais c'est n'importe quoi, les flics sont bien obligés de faire leur travail parce que ceci, cela. » Peut-être que certains penseront ça, mais je crois qu'il est difficile de lire la scène autrement que... le réalisateur montre cette réalité des communautés noires aux États-Unis, tu vois. Donc,
ouais. Mais je t'avouerai que j'ai pas lu de retour sur cette séquence-là, mais ça me rend curieux. J'irai voir un peu si ça échauffe justement des gens qui pensent que ça y est, Marvel, c'est des social justice warriors.
Je pense pas que ça. Mais le truc, c'est que malheureusement, ce genre de scène, c'est tellement compris, c'est tellement intégré. Que je crois que... Enfin, c'est en particulier aux États-Unis, hein, peut-être que ça nous parle un peu moins en France, même si on n'est pas étranger à l'idée des dérapages policiers, mais aux États-Unis, je crois que c'est tellement intégré, tout le monde dit « Ah bah ouais ». Tu vois, je pense que c'est ça le commentaire, ça s'arrête là. Et oui, la scène n'est pas hyper... Tu vois, elle pousse pas la controverse très très loin non plus. Hein. C'est pas que les flics se mettent à tirer sur Sam Wilson qui avait rien fait. Ça s'arrête. Mais je pense que c'est un petit peu plus... C'est pas un commentaire social fort, c'est juste un head nod, tu vois. C'est genre un petit signe de tête. Bah ouais, je crois. Moi, c'est comme ça que je l'interprète.
On verra s'il continue. Donc, c'est le deuxième épisode d'affilée hein, où il y a des... Où il y a ces sujets-là qui sont montrés. Clairement, c'est hors de l'intrigue. Mais je serais curieux de voir si c'est quand même un élément important de l'arc du personnage de Sam sur la série. Moi, je pense que le sujet est forcément, il est là parce que il y a pas que ça, il y a pas que cette séquence-là. Il y a aussi le fait que, tu sais, il découvre qu'il y a eu un super soldat noir et que personne n'est au courant, alors que Captain America, on en a fait un symbole, on en a fait, tu vois, une machin, etc. Et Sam découvre que voilà, qu'il y avait une autre personne qui était aussi le super soldat et qu'il est noir et que personne n'est au courant. Donc il y a peut-être ça qui va revenir.
Ça me surprendrait, mais peut-être.
Ouais, je serais assez surpris aussi.
Et l'excuse de Bucky qui dit ah mais il a déjà assez souffert, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. C'est un peu léger, quoi. Ça, généralement, ils se démerdent bien pour introduire des personnages qui étaient là avant et dont on n'a jamais entendu parler. Ça passe plus ou moins avec Ant-Man, ça passe avec les sorciers de Doctor Strange, justement, ça passe. Mais là, je trouve que c'est genre...
À quelle occasion il aurait pu en parler, en fait, quand tu regardes la chronologie des choses
Dire, à quel moment tu sors au fait, il y a aussi...
Il parle pas, tu vois, enfin, c'est pas...
Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais, ok, donc, cette parenthèse peut être fermée pour la suite de la série, et peut-être pas, peut-être qu'ils la rouvriront, on verra. Moi, je suis déjà surpris qu'ils l'aient évoqué à deux reprises, mais on verra. Je me souviens plus des scènes qu'il y a après. Ah oui, c'est le...
Mais bon, là, ils sont en prison, du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est Barnes qui est arrêté, en réalité, il y a un mandat d'arrêt contre lui.
Tout à fait.
Parce qu'il a oublié d'aller chez sa thérapeute.
Chez la psy, ouais.
Et du coup,
il y a la session de psy assez bien foutue, un peu courte. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue, mais c'est assez drôle. Et puis, on comprend effectivement la frustration et la détresse de Bucky, qui est toujours pas sûr d'être, après 50 ans, à être utilisé comme l'arme de Hydra, qui a toujours pas la certitude qu'il est sorti de ce personnage qu'il était devenu, quoi. D'ailleurs, c'est ce que lui dit Bradley.
Moi, c'est l'autre scène hein, qui m'a un peu sorti de la série, justement, c'est cette thérapie. Alors, c'est drôle, hein, j'ai quand même rigolé, mais je trouve que c'est poussé un peu à l'extrême et c'est encore un peu des gamineries que je trouve un petit peu, un petit peu surjouées jusqu'au Star Contest, etc. Et bon, après cette séquence-là,
je suis complètement d'accord avec toi, mais tu vois, rien que le fait que tu le dises, ça me fait rigoler. Donc je me dis que ça valait quand même le coup, mais je suis d'accord avec toi. Ça fait gaminerie, ça te sort un petit peu du truc.
Ce que je trouve bien, c'est que ces gamineries, elles interviennent au tout début, et du coup après, on a quand même l'ouverture de Barnes sur qui finit par dire ce qu'il a sur le cœur. Et qui est assez intéressant, donc le fait que si Captain America s'est trompé sur le compte de Sam, est-ce que ça veut dire qu'il s'est trompé sur lui aussi? C'est normal, hein, il a clairement besoin de savoir qu'il peut être quelqu'un de bien, etc. Barnes, et du coup, ça le travaille, et je trouvais que c'était bien joué à ce moment-là, justement. J'étais assez convaincu pour la suite.
Et c'est pour ça que je dis, je pense que la scène aurait gagné à être 2 minutes plus longue, tu vois, pour qu'on ait le temps d'installer un petit peu les gamineries et puis de transitionner un peu plus subtilement à quelque chose de plus à cœur ouvert, mais ouais. Ouais, et puis ensuite, donc, ils sortent et ils se rendent compte, ils rencontrent encore une fois Captain America, plus menaçant.
Voilà, c'est ça. D'abord, ils regardent s'ils peuvent travailler ensemble, ils échangent un petit peu, et puis Sam finit par dire... t'as tout à fait raison, Captain America. Par contre, nous, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est indépendant, et toi, tu vas devoir suivre les procédures et remplir de la paperasse, donc on n'a pas de temps à perdre avec toi. Et ça plaît pas beaucoup à John Walker, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça.
C'est facile. Il a eu deux noms, John Walker. C'est Johnny Walker, qui est un whisky, et... merde, j'ai oublié. Il a un autre nom de whisky, en fait. Donc, c'est Johnny Walker. C'est un Américain.
Captain Whisky, on peut l'appeler. Hein,
voilà, Captain Whisky, exactement.
Et c'est là qu'effectivement, il a sa personnalité un peu plus menaçante qui ressort, parce que cette réponse ne lui plaît pas du tout. Et là, c'est maintenant, c'est bah, si vous êtes sur notre chemin, ça ne va pas le faire. Mmh. Et puis, ils se séparent là et Dieu sait où ça va. Et de leur côté, les deux héros, eux, décident d'aller rendre visite à, du coup, à Zemo.
Tout
qu'on
à fait.
Avait laissé c'était quoi, c'était Civil War.
Civil War, il a été arrêté quand Black Panther l'a empêché de se tirer une balle dans la tête, du coup il a été arrêté et ramené en prison. Et oui, donc on aura certainement peut-être un petit récap d'ailleurs de ce qui est arrivé à Zemo depuis Civil War au début de l'épisode prochain, on verra. On a oublié de parler du Power Broker qui essaye de récupérer ses trucs.
Exactement.
Ouais.
On a oublié de parler des Flag Smashers et des Power Brokers. Et du Power Broker. Donc, je sais pas, je t'ai interrompu, je sais pas si tu étais.
J'allais dire deux choses en fait. D'une part, Lamar Hoskins, Battlestar, j'ai beaucoup aimé la scène où ils sont dans la voiture. Il dit, mais t'es qui toi déjà? Et il dit, Lamar Hoskins, Battlestar. Et là, Bucky le regarde, il fait Battlestar. Stop the car! Et il descend, c'est genre la goutte d'eau. Tu sais, c'est le type qui lisait Le Hobbit en 37, tu vois, c'est vraiment un gars vieux jeu. Et les gens qui commencent à tous se donner des petits surnoms, genre parce que c'est rigolo et que, tu vois, lui, il a un passif hyper lourd, etc. C'est genre, non, c'est trop, c'est bon. Moi, je me barre, c'est terminé ces conneries. J'ai trouvé ça marrant. Mais Battlestar est, en fait, un super soldat aussi. Qui a remplacé US Agent, si je ne me trompe pas dans mon historique des comics, et donc qui a eu des pouvoirs donnés par le Power Broker, qui est un organisme ou une personne qui a du sérum de Super Soldier, je crois, ou un truc du genre. Donc,
et qui, bref. Il fait quoi, il le vend en plus offrant dans les comics.
Je me souviens pas. C'est un personnage qu'on voit qui est celui qui transforme Joaquim Torres en Falcon en lui faisant un hybride d'ADN d'oiseau. Et donc, il a genre des ailes des vraies ailes d'oiseau, tête d'oiseau. Enfin bref, c'est particulier. Mais c'est un type qui fait des expérimentations scientifico-médicales en fait.
Mmh. On a des chances, j'imagine, de voir notre duo de Captain Whisky finir par avoir des pouvoirs du coup. Avec
peut-être,
sérums,
c'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible.
Ouais. Et, donc il y a du ça. Coup, moi, ce que je voulais dire sur les Flag Smashers, je voulais juste en parler un peu, c'est que c'est un groupe qui est montré quand même de façon assez empathique par la série. Mmh. À plusieurs reprises, on voit bien, c'est bien montré qu'ils prennent soin les uns des autres. Hein, dans le premier épisode, c'était déjà le cas. Et là encore, quand ils se battent sur le camion, ils se relèvent, ils relèvent son copain en disant hey, ça va, etc. Enfin, tu sens vraiment qu'ils sont, voilà, qu'ils tiennent les uns aux autres. Donc, on les voit un peu plus tard dans leur QG, enfin je sais pas, leur planque plutôt.
Ouais, leur planque.
Où clairement ils ont un idéal commun et ils sont prêts à se sacrifier pour cet idéal, pour que la chef des Flag Smashers, j'ai oublié son prénom.
Carly Morgenthau.
Carly, c'est ça, Carly?
Ouais, Carly. En fait, dans les comics, ouais. C'est Carl Morgenthau, mais là, ils l'ont transformé visiblement en Carly.
Ah, c'est un personnage masculin. Ok, d'accord, très bien.
Ouais. Et bah, le Flag Smasher, coup, c'est un personnage et là, c'est devenu le groupe.
Et on apprend que du coup, elle aurait volé, a priori, en tout cas, les sérums au broker. Enfin, c'est pas dit comme ça. Hein. Elle reçoit un texto qui dit « Je vais te retrouver, tu m'as pris des trucs. »
Oui, exactement. Mais on ne sait pas si c'est le sérum. Hein. Il semble que... Enfin, il y a écrit « vaccin » sur les caisses. Peut-être que ce n'est pas des vaccins. Et d'ailleurs, il y avait dans la série originale, c'est pour ça qu'elle a été retravaillée, quand elle a été conçue et même filmée, une histoire d'épidémie provoquée par, sans doute, les Flag Smashers. Et oui, et donc, évidemment, puisque c'est passé en 2001, ils se disaient « Oh merde ok, bon, peut-être qu'on va retravailler ça. » Mais oui, donc on ne sait pas ce que c'est exactement. Et puis, elle a l'air de dire « Une fois qu'on a fait ce qu'on va devoir faire, il n'y aura plus possibilité de revenir en arrière. » Donc, on se demande s'il n'y a pas quelque chose de plus sombre qui est en train de se tramer, ou peut-être qu'ils vont envoyer du super sérum partout dans le monde et que ça va créer des super soldats partout ou Dieu sait quoi. Mais bon.
Et du coup, on en revient à Zemo, parce que du coup, Zemo, c'est un personnage qui, lui, estime qu'il ne faut pas qu'il y ait de super-héros, il ne faut pas qu'il y ait de super-pouvoirs, a priori. Et du coup, je suis assez curieux de savoir comment il va se positionner vis-à-vis du coup de Barnes et de Falcon, puisque du coup, a priori, ce qui se passe avec les Flag Smashers et le Power Broker ne devrait pas lui plaire non plus.
Oui, peut-être que leurs intérêts vont s'aligner, tu veux dire ?
Ouais.
Intéressant, idée intéressante, ouais. Ouais, effectivement, donc il y en a un des Flag Smashers qui se sacrifie pour leur donner du temps. D'ailleurs, à la deuxième vision de l'épisode, je me suis rendu compte que vraiment, il fait rien du tout, le gars. Il
non,
est juste...
Il pousse
un pylône électrique et puis il court vers des gens armés, il se fait tirer dessus. D'ailleurs, je pense que leur dose de super sérum a quand même été assez diluée hein, à tous parce qu'ils sont un peu forts, mais c'est pas non plus... Bon, ils ont peut-être pas aussi tout l'entraînement, etc. Mais oui, c'est pas non plus tous des Captain America, mais bon. C'est vrai que peut-être que l'entraînement...
Cette scène rentre vraiment dans le cadre du manque de subtilité du MCU, des fois que je reproche, c'est... On avait besoin de montrer qu'ils se sacrifiaient les uns pour les autres. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a dit « Bon, bah, on va le faire courir vers des gens armés. » Sans raison.
C'est peut-être le manque de subtilité de ce groupe. Tu vois que c'est juste des gens normaux à qui on a fait une piqûre et qui disent « tu vois, il ne sait pas quoi faire. » Tu vois, si tu as un groupe de super méchants armés et que tu dois, toi, te sacrifier pour faire gagner du temps à tes potes, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Est-ce que tu auras le réflexe de sauter depuis un immeuble sur une des voitures et puis disparaître dans la nuit pour réattaquer de l'autre côté ? Je ne sais pas. Peut-être que ton entraînement est meilleur que le mien. Bon, je t'avoue que moi, j'essayerai peut-être de ne pas courir tout droit vers les gens qui me tirent dessus non plus. Donc voilà pour le résumé. Il mentionne Sharon Carter. C'est bien Carter.
Ouais, parce qu'en fait, ils évoquent le fait d'aller voler le bouclier.
Oui.
C'est ça qu'on n'a pas dit. Un peu rigolé.
C'était marrant. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la phrase de Sam qui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je dise « Ouais, allô l'Amérique, j'ai changé d'avis, rendez-moi le bouclier ?» Il peut pas. Et quand il dit « On va le reprendre », il dit « Ouais, la dernière fois, c'est pas trop mal passé. On était ennemi d'État, on était on the run pendant 2 ans et Sharon a été ennemi d'État. Bon, calmons-nous, quoi. » Mais ça fait partie aussi du truc où il mentionne tellement de monde, il y a tellement de gens, il y a tellement de super soldats, et Sharon qui est ramenée dans l'histoire. Bon,
c'est très dense hein, en interaction, en personnage, etc. J'avoue que je ne me suis pas encore mis comme ce que j'avais fait avec Wanda, dans la disposition mentale de faire comme si j'étais un nouveau téléspectateur du MCU. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus difficile, entre guillemets, que pour VandaVision. Alors, il y a plus d'action et c'est peut-être plus accessible en termes de, voilà, de trame et d'action, mais c'est vrai que qui est qui, enfin tout ça, c'est un peu... Il y a beaucoup de monde, quoi.
Je crois que c'est assez bien géré pour que tu aies la trame principale qui est suivable, et puis le reste, si t'es pas un super fan du MCU, bon, tu suis plus ou moins, tu comprends plus ou moins, mais je crois qu'à ce stade, il y a peu de gens qui regardent ce genre de choses, qui n'ont pas vu au moins quelques films, et je dirais au moins des Captain America, parce que c'est quand même les meilleurs et les plus accessibles de toute la série, j'irais, avec Guardians of the Galaxy peut-être, mais je pense que la plupart des gens connaissent plus ou moins ce qui se passe là. Mais c'est marrant d'ailleurs de penser à ça parce que on parlait après la fin de l'épisode et ma femme qui l'a regardé m'a dit « Oh écoute, là c'est vraiment sympa, c'est léger, c'est rigolo, ça se laisse regarder. Le prochain, je le regarderai peut-être avec toi dès vendredi. » Alors que d'habitude, elle attend le week-end que je l'ai vu et que j'ai dit « Ouais, c'est sympa, tu peux regarder, ça te plaira sans doute. » Et donc là, elle s'est dit « Ouais. » Et l'autre truc, c'est que elle a également dit... Enfin, on discutait, on disait « Ah ouais, c'est marrant l'histoire des Big Three, androïdes, aliens et sorciers. » Et je disais « Mais bon, en fait, ils sont jamais vraiment battus contre des mages ou des sorciers. Ouais, il y a quand même... » Et ma femme me dit « Ouais, il y a quand même Doctor Strange. » Et puis, dans l'équipe de Thanos, il y avait le magicien, là, Ebonimo. Bon, elle connaissait pas le nom, mais elle a dit « Il y a le magicien qui bouge des trucs. » Et je me suis rendu compte, tu sais... À quel point ce qu'a fait Kevin Feige est magique. C'est exactement les conversations qu'on avait, nous, geeks de 14 ans et 13 ans et 12 ans et 20 ans, à l'époque en lisant des comics. Et maintenant, je suis en train d'avoir les mêmes conversations avec ma femme. Tu sais, ah ouais, non, mais il n'y a pas de sorcier. Si, si, attends, Doctor Strange quand même et tous les sorciers du groupe, machin. C'est incroyable et ça m'a fait tellement plaisir d'avoir cette conversation improbable avec ma femme. C'était vraiment un moment particulier et je remercie Kevin Feige pour ça, quoi. Ils ont amené au grand public le plaisir de ce genre de geekerie qui nous était réservé, un petit peu comme, je sais pas, comme les jeux vidéo ont conquis le monde. Maintenant, les comics sont devenus un truc dont tu peux parler avec des gens normaux, c'est génial.
Ouais, et puis clairement, enfin moi, c'est au bureau, j'ai quasiment tous mes collègues aussi qui le regardent, etc. Enfin, c'est quand même assez.
Et vous en parlez. Vous...
Moi, ça fait partie des plaisirs des séries télé, et c'est pour ça que je suivais Game of Thrones, alors que j'aime pas beaucoup Game of Thrones, mais je suivais quand même parce que c'était chouette le lendemain de la diffusion d'épisodes d'en parler juste à la machine à café et puis comme ça. Quoi. Ouais. Enfin, c'est moi, ça fait partie un peu du plaisir que j'ai. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien aussi le podcast. C'est, ça fait aussi cette partie-là. Comme il y a plus de machine à café et qu'il y a plus de bureau, parce qu'on travaille tous de chez nous presque. Du coup, c'est chouette d'avoir ces discussions-là. Ouais.
Tout à fait. Donc voilà pour le deuxième épisode de Falcon and Winter Soldier. On parlera du prochain qui est diffusé dans quelques jours seulement. Bah, on en parlera la semaine prochaine. En même temps, comme vous le savez peut-être, nous attendons, ma femme et moi, notre deuxième enfant dont l'arrivée est imminente. Normalement, c'est début de semaine prochaine. Donc, on verra comment ça se passe. J'essaierai de faire l'émission quand même de temps en temps parce que j'espère que j'aurai le temps de me libérer une heure par semaine pour regarder et une heure par semaine pour en parler. On verra comment ça se goupille. Évidemment, mes autres podcasts seront en pause, mais j'espère, on verra. Si on est un peu en retard, bah, c'est peut-être que Number Two est arrivé un peu en avance. Donc avant de se quitter, vraiment deux mots. D'une part sur Invincible, une série animée qui est disponible sur Amazon Prime Video, qui est des épisodes d'une heure, enfin de 45 minutes, et qui est tirée de la série de comics de Robert Kirkman, qui s'appelle Invincible, qui fait 100 ou 150 épisodes, 150 numéros, et qui est à la base, tu te dis, une histoire de super-héros assez classique et même très très classique. Et qui, vous connaissez Robert Kirkman, hein, c'est celui qui a écrit également la BD The Walking Dead. Et comment dire ? Moi, j'ai adoré, j'en parlais dans Positron il y a bien longtemps, c'est l'une des meilleures séries de comics qui soit. Vraiment, elle est hyper hyper bonne, même si elle commence un petit peu lentement, je vous assure que ça vaut le coup. Et l'autre chose à noter, c'est que c'est pas pour les enfants. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas pour les enfants du tout. Donc, regardez, soyez prêts à ce que ça soit pas pour les enfants. Voilà, je le dis juste comme ça. Et on en parlera, je suis sûr, on en reparlera en société à un moment. J'ai vu que le premier épisode, donc je suis pas encore totalement sûr de mon jugement, mais vu que la qualité de la... du comics est vraiment élevé, je pense que ça sera intéressant aussi.
Tout est disponible déjà ou c'est...
Alors, les trois premiers épisodes sont disponibles et puis après, ça sera en hebdo, je crois. Je dis okay, ça.
Bah, mais... J'irai jeter un coup d'œil.
Ouais. Je crois que c'est
je regardais une bande-annonce au moment où tu disais que c'était pas pour les enfants, j'ai vu quelqu'un se faire vraiment...
Oui, alors ne dis rien, ne dis rien, voilà. Mais oui.
Donc je confirme.
C'est pas pour les enfants. L'autre truc dont on peut parler en un instant, vraiment, parce qu'on pourrait peut-être faire un épisode entier dessus, mais on ne va pas, enfin pas pour le moment, c'est le Snyder Cut de Justice League. Je crois que tu l'as regardé, Johan, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Alors, en disclaimer, il faut le dire, je n'aime aucun film de toute la filmographie de Zack Snyder.
Ah, même pas 300 ou même pas...
Alors, 300 et Watchmen, je les aime pas beaucoup, mais...
Mais tu les détestes,
moi. On va dire que je les déteste pas, c'est juste que je... Voilà, d'accord. Sans plus. Mais ils ont en commun le fait d'être quasiment des adaptations plan par plan de bandes dessinées. Et donc, entre guillemets, je trouve que le travail avait été pré-mâché pour Zack Snyder. Et du coup, que voilà, que bon,
que
c'est les moins pires, mais c'est pas forcément grâce à lui. J'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il arrive à retirer de la compréhension, enfin, il arrive à retirer du sens de ses BD pour ajouter à la place du sang, de la violence et des références christiques. et ça a tendance à m'agacer. Donc voilà. Donc maintenant que c'est dit, Justice League, la première version, celle de Whedon, fait partie des pires films que j'ai vus dans ma vie. Et je trouve que celle-ci est mieux. En termes de compréhension de ce qui se passe, je trouve ça beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a de très chouettes scènes. Il y a deux scènes, moi, que j'aime bien.
Le combat de Wonder Woman au début.
Ouais, elle est sympa, allez. On va dire trois. Combat de Wonder Woman, les interactions entre Flash et Superman quand ils sont en confrontation, et le retour.
C'est une demi-scène, c'est un plan,
voilà.
Quoi.
Et la toute fin, voilà, quand il remonte le temps. On a dit qu'on spoilait, là. Je sais
bon,
pas.
Ouais, écoute, je pense que...
voilà. Ouais. Quand il remonte le temps, je trouve que la scène est jolie, voilà. Et donc ça, tout ça, donc ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 6 minutes. Je suis généreux sur 4 heures. Et voilà, ouais. J'ai pas aimé. J'aime pas vraiment ce qu'essaye de faire Snyder. Je trouve que, en plus, il a rajouté des personnages qui ont rien à faire là. Enfin.
Moi, voilà, je crois que c'était... les avis sont très très tranchés et les combats sont presque violents sur Internet. Donc moi, je vais me limiter à dire la chose suivante. Si vous avez aimé Man of Steel et Batman versus Superman, c'est exactement la même chose en fait. C'est les mêmes entre guillemets qualités. Vous avez compris que je suis pas fan et les mêmes défauts. Et donc, si vous aimez ces films-là, vous aimerez celui-là. Et si vous ne les avez pas aimés, vous ne l'aimerez pas. Et moi, je suis un petit peu dans la catégorie des gens qui n'aiment pas du tout ces films-là, pour plein de raisons, dans lesquelles on ne rentrera pas avant une review complète, peut-être. Mais donc, moi, ça ne m'a pas plu. Et puis, 4 heures, c'est très long. Et il y a tellement à dire que c'est nécessaire de faire long. Mais quand on n'aime pas la forme, ni la forme, ni le fond, forcément, on souffre un peu. Donc, mais voilà, je crois qu'au final, la conclusion que j'en ai, moi, c'est que c'est juste Zack Snyder qui fait du Zack Snyder, effectivement. Et... Mmh. 300, j'avais beaucoup aimé. Watchmen, j'ai beaucoup aimé, mais pour des raisons qui sont esthétiques. Et Zack Snyder, pour moi, est complètement tombé de sa grâce avec... Sucker Punch ?
Sucker Punch, oui.
Ouais, qui était d'une vacuité sidérante. Et pourtant, c'est pas que pour les films de super-héros, je demande une profondeur philosophique particulière. C'est des films fun, un petit peu culture pop, et on passe un bon moment, et voilà, c'est terminé. Et c'est pas du tout ce qu'il fait. Et donc, je suis très content que ça plaise à certains. Et si ça leur plaît, tant mieux. Mmh. Mais vraiment, ma conclusion de ce Snyder Cut, là où j'attendais en fait que Snyder fasse évoluer un petit peu son style, parce que tous les reproches qu'on lui avait faits pour ses films précédents, maintenant il les connaît. Il aurait peut-être pu avoir un petit peu de recul, un travail d'analyse. Mais il fait pile, exactement la même chose. C'est sidérant. Alors, bon, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut faire, tant mieux pour lui, mais le fait qu'il...
Il faut rappeler que le film était déjà tourné, hein, quand même. Il y a eu beaucoup
Il a eu 80 millions en plus pour... je ne sais pas s'il a retourné des scènes, mais il a quand même bien remanié le film. Hein.
Il a fini son film, mais une grosse partie, quand même, était déjà là. Soit tournée et pas utilisée par Whedon, soit déjà dans le film. Donc, moi, je ne m'attendais pas vraiment à autre chose. Alors, il y a quelque chose qu'il faut quand même que je salue, c'est... Je trouve la démarche assez cool. Alors, je suis pas forcément d'accord avec la façon dont ça a été arraché à Warner par voilà. Bon, en tout cas, ça a été fait et finalement, je trouve ça bien.
Ils ont fait un calcul financier. Je suis sûr qu'ils sont rentrés dans leur sous. Tu vois, c'est pas qu'on leur a.
Zack Snyder avait pas pu finir son film. Il y a eu un drame familial de son côté qui lui avait fait arrêter. Je trouve ça bien qu'il ait fini son truc comme il voulait. En plus, là, il était complètement libéré du format cinéma, donc il a pu faire 4 heures, etc.
Faire en 4 tiers, ce que j'ai pas non plus, mais bon.
Ouais, bon, ça, je vais pas trop l'aborder, parce que ça, c'est un petit truc qui m'a un peu énervé. Mais en tout cas, c'est fait. Les fans sont ravis, clairement. Maintenant, ils réclament carrément
le
retour complet de un Snyderverse. Bon. Si vous l'avez aimé, effectivement, c'est tant mieux. Hein. Ça veut dire qu'il a fait les choses comme il le fallait pour vous. Donc c'est cool. Et vous inquiétez pas, moi aussi j'aime de très mauvais films. C'est pas du tout une honte.
On pourrait en parler très longtemps et c'est marrant parce que dans ce genre de débat, on commence à s'accuser. Ah ouais, t'es vendu au MCU, machin, ce qui est totalement faux. Il y a plein de films du MCU que je trouve assez mauvais. On n'est pas avare de critiques de ce qui se passe du côté de Marvel aussi, mais clairement, c'est pas notre truc, cette vision très sombre et très. Très. Comment dire. Edgy. De ces personnages. Et puis surtout, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est sa version de ces personnages. » Mais bon, il faudrait qu'on rentre dans tous les détails, ce qu'on ne va pas faire. Mais
non, il y a trop de détails.
Ouais. Il y a beaucoup de... C'est pas juste que ça ne correspond pas aux idéaux du comics ou aux personnages du comics, c'est qu'un personnage peut être simplifié au maximum à son essence et on ne retrouve rien de l'essence des personnages, d'aucun d'entre eux quasiment, dans les films de Zack Snyder, donc c'est difficile. Et si c'était quelque chose qui nous plaît, on pourrait, embrace cette nouvelle version. Mais enfin bon, bref, on va pas. J'avais promis que je voulais pas faire trop long sur ce sujet.
On va facilement partir sur une heure à nouveau, ouais.
Donc on va s'arrêter là. Mais peut-être qu'un jour on parlera du Snyderverse et de ce qui nous plaît pas.
Pourquoi pas.
En essayant d'argumenter un petit peu, mais En fait, ce que je pense, c'est qu'il y a peu d'argumentation à avoir. Tout le monde sait ce qui leur plaît ou ce qui ne leur plaît pas dans cette série de films. Maintenant, c'est clair que c'est une série entre Man of Steel, Batman v Superman et Justice League de Zack Snyder, et tout le monde comprend. Et le fait d'en débattre plus ne sert qu'à rabâcher les mêmes choses et s'énerver les uns les autres. Donc, je crois que ce n'est pas forcément la peine de se lancer là-dedans. Je crois. Merci, Johan, d'avoir participé à cet épisode avec moi.
Ouais.
Tu as hâte du troisième épisode de Falcon and Winter Soldier ?
Ouais, j'ai hâte. Eh ben, je ne sais pas ce qui nous attend. Voilà.
C'est bien que ça avance vite. On n'a que 6 épisodes en tout, donc il n'en reste que 4. Les choses avancent et on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode, j'espère. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.